Dialogue sur la mort. Une émission proposée par Christian de Cacret.
Amis auditeurs des Dialogues sur la mort et donc sur la vie, bonjour. Notre invitée aujourd'hui est une femme lourdement marquée par le deuil puisque son époux est décédé il y a presque 20 ans, la laissant veuve à 33 ans, et puis que l'un de ses fils est décédé à l'âge de 18 ans. Tous les deux ont succombé à une crise d'épilepsie. Aujourd'hui, elle se consacre à l'accompagnement des personnes en deuil, tant au ministère de l'Intérieur qu'au sein de l'association Movida qu'elle a créée. Catherine Bossard, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous écrivez, pour décrire ce que vous avez vécu, « Rien ne vous prépare à être veuve avec deux enfants de 10 mois et 3 ans à 33 ans ». Alors, on a envie de vous dire, mais quel a été votre chemin de reconstruction, de relèvement ?
Alors, je me suis rendu compte avec le recul qu'en fait, pendant les plusieurs années, notamment la petite enfance de mes garçons, j'avais un peu enquisté le deuil. C'est-à-dire que je l'avais coffré quelque part, dans un coin de ma tête. Et le deuil de mon mari, je ne l'ai réellement fait qu'à partir de 2013. Donc, sept ans après, où j'ai eu très clairement un épisode dépressif. Et où là, j'ai pris conscience qu'en fait, le deuil était à vivre. Alors, c'est très facile à dire avec le recul. Mais je suis désormais extrêmement vigilante aux personnes qui semblent ne pas souffrir dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui suivent la perte d'un proche, parce que je sais ce que c'est. On est dans l'action très vite, on se lance dans l'action et en fait c'est quelque part un peu plus inquiétant que quelqu'un qui pourrait s'effondrer tout de suite après.
Qu'est-ce que vous aviez enquisté? Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression? C'est-à-dire que vous vous interdisiez de prendre le temps de vivre cette douleur de la séparation qui pourtant était bien là, vous vous retrouviez seul avec vos deux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire enquister?
C'est quelque part, c'est un réflexe que j'ai eu, c'est-à-dire j'y penserai plus tard, je pleurerai plus tard, et je n'ai même pas consciemment refoulé le deuil, il s'est mécaniquement mis en retrait. Alors j'ai lu après des écrits qui expliquaient, qui m'ont permis de comprendre a posteriori finalement ce mécanisme de protection que j'avais mis en place de manière complètement spontanée et inconsciente, finalement de mettre ce deuil dans un coin de ma tête.
Et quand est survenu le deuil de votre fils, les choses ont été différentes?
Tout à fait. J'avais déjà commencé à accompagner des personnes en deuil. J'avais beaucoup, beaucoup lu sur le sujet. Donc, j'étais en mesure, au-delà évidemment de la douleur, de comprendre mes réactions. Et de pouvoir très rapidement comprendre mes réactions et pouvoir me donner un peu plus le droit de vivre le deuil.
Et pour revenir donc à ce moment de bascule 2013 où finalement ce kyste s'ouvre, si je puis poursuivre cette image, vous parlez d'un syndrome dépressif. Donc c'est ça qui a déclenché. Vous êtes trouvé vraiment en grande dépression et vous avez, en cherchant, compris que c'était lié à ce deuil pas fait, enkysté.
Tout à fait, avec un accompagnement psychologique à l'époque qui m'a permis de comprendre et d'exprimer la souffrance du deuil à ce moment-là.
Ouais. Alors, Catherine Bossard, bien sûr, on se demande comment, ayant été si fortement touchée par le deuil, vous pouvez aujourd'hui consacrer vos énergies, votre énergie vitale, à soutenir ceux qui le vivent. C'est pas évident quand même, quand on a autant souffert de la perte et de la séparation.
J'ai finalement toujours une petite voix en moi qui me dit « ça ne peut pas t'abattre, ce que tu as vécu ne peut pas t'abattre, qu'est-ce que tu peux en faire ? Est-ce que tu peux tirer une force de ces épreuves de vie extrêmement douloureuses, ça va de soi, mais qu'est-ce que tu peux en faire ?» Et le fait de pouvoir apporter un soutien et un accompagnement aux personnes qui vivent ou qui ont vécu les mêmes épreuves que moi, en fait, là aussi, ça m'est apparu complètement naturel. Ça ne pouvait pas m'abattre.
Vous avez un profil de coach, n'est-ce pas ? Donc,
tout à fait.
Ce qui est intéressant, je trouve, déjà pour commencer, on va essayer de, ensemble de partager ce qui fait votre singularité dans l'approche du deuil. Donc déjà, professionnellement, point de vue de votre formation et de votre pratique, vous êtes une coach. Et vous faites un parallèle entre cette activité de coach et l'accompagnement des endeuillés. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ?
Ça a démarré du constat qu'en fait, la plupart des situations de coach viennent d'un problème de confiance en soi. Et je me suis rendu compte que dans la problématique de l'accompagnement du deuil, non seulement il peut y avoir des problématiques de perte de confiance en soi, mais en allant plus loin, de perte d'estime de soi. Donc les mécaniques psychologiques, je ne vais pas revenir là-dessus, mais très clairement, je me suis rendu compte que les outils du coaching pouvaient être finalement adaptés et transposés à la prise en charge de l'accompagnement des personnes en deuil. C'est vraiment une question d'outils métiers, en fait.
Alors comment ? Parce que moi, j'ai lu avec intérêt que vous faites des bilans de deuil. Je n'avais jamais entendu cette expression jusque-là. Qu'est-ce que vous mettez derrière ?
Alors, dans le bilan de deuil que je propose à tous les adhérents qui le souhaitent, hein, de mon association, on fait en fait une espèce de 360. Les personnes qui connaissent le coaching se retrouveront, c'est-à-dire vraiment un bilan total de où ils en sont. Donc, c'est pour ça que le bilan de deuil s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà entre 6 mois et 12 ans de recul, hein, 6 et 12 mois, de recul après la perte de leurs proches, pour comprendre finalement où ils en sont, s'ils ont entamé des démarches quelconques pour essayer d'aller mieux, pour essayer de se reconstruire, et pour voir avec eux quelles sont les solutions, parce que la prise en charge thérapeutique ne va pas de soi. Hein, j'ai tendance à dire que finalement le deuil est un processus naturel. Nous allons tous vivre au moins un deuil dans notre existence, hein, plus ou moins traumatique, je vous l'accorde. Et donc, on essaie de regarder ensemble le parcours qui a été réalisé pour que les personnes prennent conscience aussi qu'elles ont fait du chemin, même si on ne s'en rend pas forcément compte, et voir ensemble quelles sont les trajectoires un petit peu d'avenir, de reconstruction après la perte.
Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus sur l'influence du deuil sur la confiance en soi, l'estime de soi ? C'est pas intuitif, c'est pas évident.
C'est pas intuitif, ouais, je vous l'accorde. Il y a déjà quelque chose qu'on retrouve, alors à plus ou moins forte intensité dans tous les deuils, c'est la culpabilité.
Ouais.
Et la culpabilité, oui, si j'avais fait ceci, si j'étais rentrée plus tôt, si j'étais pas partie en voyage ce moment-là, j'aurais pu tenir la main de mon proche au moment où il est décédé à l'hôpital, etc., etc. C'est des choses que je retrouve quasiment systématiquement dans tous les récits de deuil que l'on me fait. Et donc, finalement, la prise en charge de cette culpabilité, c'est un petit peu complexe, hein, mais qui est, à mon avis, indispensable, ça entame la confiance en soi, et on se rend compte que beaucoup de personnes en deuil, finalement, rencontrent notamment des difficultés d'ordre professionnel.
Mmh.
Parce qu'il y a aussi des problèmes de concentration, hein, je l'ai vécu, hein, pendant plusieurs mois, au niveau professionnel, et donc progressivement, on se sent un peu diminué dans son quotidien.
Sa façon d'être au monde, aux autres, finalement, est altérée, et du coup, on commence progressivement à douter de soi.
Et à se dévaloriser.
Et ces signes-là de ce que vous décrivez, bien vous les recherchez à travers ce bilan de deuil, c'est-à-dire
tout à
que
fait.
Voilà. Et c'est les gens qui l'expriment. Vous avez une façon de les questionner.
Voilà. Et le coaching donne finalement des méthodes de questionnement spécifiques qui permettent aux gens finalement de mettre le doigt, de verbaliser un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne.
Ça, c'est au sein d'une association que vous venez de créer, qui s'appelle Movida.
Oui.
Vous êtes un peu la seule, là, vous avez breveté cette approche, ou il y a d'autres gens que vous qui travaillez selon ces méthodes-là ?
Il y en a peut-être, mais en tout cas, à titre personnel, c'est quelque chose que j'aurais souhaité, avoir après le décès de mon fils l'an dernier. Donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas faire cette espèce de bilan, ouais. De bilan de deuil, et de proposer ça au sein de mon association.
Et je voulais vous demander aussi une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est de savoir si, selon vous, le deuil connaît une fin. Au fond, là, vous avez évoqué ce deuil enkysté dans votre histoire personnelle. Et puis, est-ce que, après avoir fait tout ce travail, toute cette prise de conscience, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que, oui, il y a une sortie de deuil ? Il y a un moment où on peut dire, ce deuil, je l'ai assumé.
C'est toujours une question un petit peu complexe, mais j'ai envie de reprendre la métaphore de Christophe Fauré, qui me semble particulièrement pertinente, de la cicatrice.
Oui.
Si vous voulez, le deuil est un processus, c'est un travail de cicatrisation, cette cicatrice, elle restera sur votre bras psychique, hein, à vie. Elle sera beaucoup moins rouge, elle sera beaucoup moins douloureuse, mais vous la regarderez et vous vous rappellerez jusqu'à votre dernier souffle qu'il y a eu une blessure.
C'est une trace qui est laissée, mais oui. Ce qui définit le mot deuil, donc le temps du deuil, n'est plus de la même acuité. Enfin, la douleur n'est plus là, c'est la trace qui reste.
Exactement. Je pense qu'il y a une empreinte.
Il reste une empreinte. Pour finir, je voulais vous interroger aussi, parce que le deuil est décidément une question qui vous habite fortement dans votre engagement dans la société. Vous êtes chef de la mission d'accompagnement des blessés au ministère de l'Intérieur, et je crois que ça recouvre aussi des situations de deuil.
On rencontre, hélas, des situations de personnel qui décède dans le cadre de leur mission. Donc, on est à même également de leur proposer des solutions, je dirais, les familles, hein, pour les familles de soutien à la fois financier, social, psychologique, grâce au réseau qui a été développé au niveau ministériel. On les oriente.
Et est-ce que là aussi, vous êtes tenté de mettre en œuvre votre approche à la fois coaching et suivi de deuil, tel que vous nous l'avez décrit? Ça peut être...
Alors c'est quelque chose qui serait qui est encore un petit peu, je dirais, embryonnaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de prise en charge psychologique. Mais cette approche un peu alternative, je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps pour que ça soit mis en place, mais pourquoi pas à moyen terme. Ouais.
En tout cas, Catherine Bossard, merci, parce que je trouve que vous nous avez, en quelques mots, vraiment ouvert sur une autre vision de l'accompagnement du deuil. Et c'est toujours précieux sur un sujet que nous avons déjà à l'antenne souvent évoqué, de le regarder différemment. On peut vous retrouver au sein de l'association Movida. Catherine Bossard, merci beaucoup.
Merci à vous, très bonne journée.
Nous continuons nos programmes avec Halte spirituelle, Véronique Elzieux.
La rose, fleur indissociable de la figure de Thérèse de Lisieux, est au cœur du texte que nous allons évoquer dans un instant avec Pierre Eliane dans Halte spirituelle. Restez avec nous sur RCF.